Émotion. Opinion. Votre radio. Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
Le Québec est prêt à faire sa part d'un point de vue humanitaire. Mais l'atteinte du point de saturation de nos services doit également être considérée. Et le fait est que, pour le gouvernement du Québec, ce point est sur le point d'être atteint. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral pour développer de nouvelles solutions. Mais le statu quo n'est pas acceptable.
Les chefs. Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Mais le statu quo n'est pas acceptable.
Et le gouvernement du Québec qui met le point sur la table dans le dossier des migrants. On va en parler dans les prochaines minutes avec, avec Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour Alec.
Bonjour.
Alors Antoine, c'est ça le ministre Hurtel donc qu'on
qui
a eu...
Qui souffle sur les braises de l'intolérance? Qui veut refuser des réfugiés?
Non, c'est pas ça qu'il a dit.
OK, correct.
Il a dit qu'il allait retourner les autobus, par exemple.
Ah, oh, ben mais c'est scandaleux.
C'est scandaleux?
Tu vois pas qu'écoute, il...
Non, mais je l'écoutais, il se comporte en caquiste?
Ben c'est ça, mais je me disais, si c'était un caquiste ou un péquiste qui parlait, les libéraux auraient dit, ça n'a pas de sens. Ce sont des gens qui veulent empêcher du pauvre monde de venir ici.
Qui sont fermés à la différence.
Qui sont fermés à la différence et à la diversité.
Il y a un petit peu de vrai dans ce que tu dis.
Écoute, le Québec se dit saturé.
Oui, oui, oui.
Saturé, mais voyons donc.
Mais venant d'un libéral, c'est acceptable parce qu'ils sont ouverts à la diversité. C'est pas des racistes, eux autres, tu comprends?
Non, c'est ça. C'est ça. Ils ont le droit, eux autres.
Ben oui.
Écoute, j'écoutais ça, là, j'en revenais pas. Tout ça pour dire c'est 1850, pas plus.
1850 okay. Demandeurs d'asile?
Pas plus.
C'est ça.
Alors, il n'y a pas plus de place pour les demandeurs d'asile au Québec. Puis, il y en a qui rentrent d'ailleurs. Puis là, il va en avoir plus. Le gouvernement du Québec qui panique un peu. T'en as parlé en première heure. Là, je ne m'étendrai pas. Mais c'est quand même une annonce massive. Là. Quatre ministres qui débarquent pour envoyer ce signal-là. Hurtel, Charlebois, Proulx, Fournier. Écoute, c'est sérieux, là. Et évidemment, il y a la facture de 146 millions
de l'année
que le
passée.
Québec a envoyé de l'an passé, de l'été dernier.
C'est ça.
Et, la lettre envoyée le 21 mars qui soutenait finalement cette demande-là, qui dit que le fédéral n'en fait pas assez. C'est pour ça que je te disais l'autre fois qu'on a l'impression quand même, à quelque part, qu'on n'a pas tiré toutes les leçons de l'été dernier. Si le Québec est pogné pour dire c'est 1850 places, pas plus, puis le fédéral doit faire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas tiré certaines leçons.
Mais tu parles
que le fédéral aurait peut-être dû changer cet accord-là avec le Québec ou dire oui, compte tenu que c'est une situation particulière, l'entente tient toujours là, sur les réfugiés, mais faut en faire un peu plus du côté du fédéral. En même temps, quand j'ai parlé de ça, puis quand j'ai parlé de la facture de 146 millions, on a eu des échos d'Ottawa de la part d'Alec, puis c'est intéressant aussi qu'on semble vouloir peser sur le crayon, en mettre un peu plus dans cette facture-là. Faudrait voir, moi je suis pas un expert de ces questions-là, alors il y a ça aussi là.
Mais posons-lui la question, Alec. Alec, est-ce que tu penses que le gouvernement Trudeau va réagir à cette demande? Parce que, à ce que je sache, la lettre de Hurtel et Fournier, dans laquelle il demande le paiement de 146 millions, il n'y a toujours pas eu de réponse.
Non, officielle, non. Le 21
va-t-il y en avoir une, tu penses?
Il est supposé. On me dit qu'on travaille sur le sujet à Ottawa quand j'ai posé la question, mais elle date quand même de maintenant plus de trois semaines, cette lettre-là. On parle de fin du mois de mars.
21 mars.
C'est ça, 21 mars. Donc, toujours pas de réponse officielle. Évidemment, il n'y a pas de réaction là, à la sortie que viennent de faire les ministres ce matin. Moi, je n'ai pas parlé à personne à Ottawa. Là, j'imagine qu'on est encore en train de regarder ça, savoir comment on va réagir. On est conscient à Ottawa qu'il y a une pression accrue sur le gouvernement du Québec par rapport à d'autres provinces. Parce que par la voie terrestre, c'est ici que 75 % des demandeurs d'asile rentrent. Il y en a beaucoup, par contre, ça, il faut le préciser, qui, dès qu'ils arrivent, demandent à être transférés en Ontario. Hein. C'est pas tous qui restent ici longtemps. Dans les centres d'hébergement temporaire, là, il y en a qui sont là seulement quelques jours, le temps qu'on organise le transport, puis ils s'en vont dans d'autres provinces. Je dis l'Ontario parce que c'est le point de chute de la plupart de ceux qui veulent quitter le Québec. Là. Notamment pour une question de langue. Là. Ceux qui viennent là, du Nigeria actuellement, là, c'est beaucoup des anglophones, donc ils veulent aller en Ontario. Donc, ils ne restent pas tous ici, mais c'est vrai qu'ils arrivent par ici et que pendant une certaine période de temps, allant de quelques jours à quelques semaines, le poids est sur le Québec. Ça, à Ottawa, on en est conscient. Maintenant, on dit généralement la facture est acquittée l'année suivante. On calcule le nombre de réfugiés qu'une province a reçus, puis il y a un chèque qui est attaché à ça, au nombre d'entrants. Puis là, évidemment, le chèque de l'année passée va être beaucoup plus élevé parce qu'on en a reçu beaucoup au Québec. Mais là, on n'avait pas ouvert le stade olympique.
Le Québec réclame des acomptes provisionnels d'une certaine façon.
Exactement. Ils veulent être payés plus vite. Puis l'an passé, il y avait une situation tellement exceptionnelle qu'on a même ouvert le stade olympique. Ça coûte plus cher que d'habitude. C'est assez clair. Là.
Ouais.
Alors, à quel point cette facture-là supplémentaire, elle est représentative? Là. J'imagine qu'on est encore en train de regarder les montants du côté d'Ottawa. Mais ça va être intéressant de voir la réaction un peu plus tard aujourd'hui ou dans les prochains jours d'Ottawa parce que c'est clair qu'on est au début d'une saison chaude qui pourrait amener son lot de demandeurs à la frontière.
Ouais, et en période électorale, ça pourrait changer la dynamique électorale. Alec, écoute, là, si ça rentre, comme il disait, là, à coup de 200, 300, puis même 400 par jour, puis on est en élection pendant cette période-là.
Bien sûr,
là,
au mois d'août puis au mois de septembre.
Ça peut devenir un thème très important de la campagne électorale au Québec. Ouais, et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça.
Le Parti libéral du Québec va faire une campagne sur la construction d'un mur.
Mais Antoine, je veux aller à Alec sur le pipeline, mais juste avant de laisser ce sujet-là.
Oui.
Est-ce que tu crois que la sortie d'aujourd'hui des quatre ministres et le Québec qui montre ses muscles dans ce dossier-là?
Il y a une part de stratégie électorale, je pense. Parce quand on a un gouvernement du Québec qui réclame, qui se plaint auprès du fédéral, qui défend, finalement, il a l'air de défendre les intérêts du Québec davantage. Effectivement, il y a une part de stratégie électorale, ça c'est certain. Parce qu'on n'a pas été habitué à ça dans les dernières années. Là. Et pour monter dans le vote francophone, c'est souvent une des techniques. Moi, je me souviens très bien d'exemples passés. Prenons par 2008. En 2008, il y avait deux campagnes électorales presque coïncidentes. Là. Puis Jean Charest avait réclamé le rapatriement de la culture au Québec. La gestion de la culture dans la foulée des débats sur les coupes en matière de subventions culturelles.
Donc, tu dis Monique-Jérôme
Forgette avait fait des sorties tonitruantes sur les programmes d'infrastructure. Et moi, je pense que c'est ça. C'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a des sorties senties de la part des gouvernements libéraux.
Plus nationaliste quand t'approches les élections.
Oui, oui. Oui, c'est ça. Exactement.
Très bien. Alec Castonguay, parlons de nationalisme britanno-colombien. D'une certaine façon, c'est un petit peu ça.
C'est un peu ça, effectivement. Hein? Bon, d'abord, j'ai plusieurs choses à te discuter.
Oh!
Parce que là, il s'est passé beaucoup de choses en fin de semaine.
Mais oui.
Sur le front de Trans Mountain, le fameux pipeline de Kinder Morgan qui traverse de l'Alberta à la Colombie-Britannique. 7,4 milliards, le budget pour ce pipeline-là.
Un gros investissement.
Qui veut tripler, effectivement, donc la capacité jusqu'à 900 000 barils par jour. Je le répète parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de toutes les subtilités de la chose. Bon, rencontre très longue hier à Ottawa entre Justin Trudeau et Rachel Notley, la première ministre de l'Alberta, et John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique. Donc, on devait se rencontrer au départ pour 45 minutes, une heure. Ça a duré 2 heures. Donc, ça s'est étiré pas mal en avant-midi. On avait visiblement beaucoup de choses à se dire, mais le résultat à la fin n'a pas été si probant.
C'est-à-dire qu'on
a discuté pendant 2 heures, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 2 heures. Ça a peut-être tourné en rond un peu, parce qu'à la fin, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu de nouveautés, mais il n'y en a pas beaucoup. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ottawa va déposer un projet de loi pour réaffirmer sa juridiction et s'assurer que la construction du pipeline va de l'avant. On n'a rien de précis encore, mais on sait Ottawa dit c'est de juridiction fédérale, un pipeline qui traverse 2 provinces. On a fait toutes les études nécessaires. On l'a approuvé, il faut que ça aille de l'avant. On va déposer un projet de loi en ce sens-là. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va contenir exactement. Mais Trudeau a annoncé ça à la fin de la conférence entre les trois.
Petite parenthèse constitutionnelle, va-t-il utiliser cette idée-là que... L'ouvrage est à l'intérêt général du Canada.
Oui.
Ça n'a pas été utilisé depuis 1961, m'a-t-on dit.
C'est la clause, comment on l'appelle celle-là? C'est, le...
c'est quand tu déclares un ouvrage d'intérêt général du Canada.
Oui, il y a une espèce de mot plus technique.
C'est, c'est dans la Constitution. Oui,
c'est ça.
Très bien. C'est comme ça qu'on a créé les plaines d'Abraham ici à Québec, par exemple.
Bon. Voyons.
C'est possible. Moi, je pense qu'il y a un côté un peu défensif à ça, c'est-à-dire qu'on le sait, la Colombie-Britannique a confirmé hier encore qu'elle allait aller devant ses propres tribunaux, devant sa Cour suprême à elle, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Colombie-Britannique, la Cour suprême de Colombie-Britannique, pour tester son droit de diminuer la quantité de pétrole qui transite par ses tuyaux dans la province. Et ça, on teste donc la constitutionnalité un peu là, de cette prérogative d'Ottawa de pouvoir imposer un pipeline en disant, bien, vous allez peut-être pouvoir imposer le tuyau, mais si nous, on obtient par nos tribunaux le droit de pas, par exemple, en faire couler plus que tant de barils par jour,
c'est une façon de tuer le projet.
Voilà, ou de le diminuer. Donc, hier, John Horgan a confirmé qu'ils allaient aller de l'avant en Colombie-Britannique. Et donc, peut-être qu'avoir une nouvelle loi plus claire qui réaffirme les pouvoirs d'Ottawa, est-ce que ça peut jouer devant les tribunaux éventuellement en Colombie-Britannique? Peut-être. Bon, il y a cette nouveauté-là. Ensuite, le ministre des Finances, Bill Morneau, a reçu le mandat clair de discuter avec l'entreprise Kinder Morgan d'une possible participation financière du fédéral dans le projet de Trans Mountain. Donc, pour aider à dissiper, dit-on, l'incertitude économique autour du projet, peut-être qu'une participation fédérale pourrait du moins faire patienter les actionnaires. On pourrait gagner du temps avec ça. Et là, ce qu'on me dit à Ottawa, c'est qu'on va notamment étudier une possible implication de la Banque d'infrastructure du Canada, qui est le levier que Bill Morneau a créé il y a maintenant plusieurs mois. Elle n'est pas encore en fonction, cette Banque d'infrastructure du Canada-là. Elle va l'être l'automne prochain, mais elle est dotée d'un budget de 35 milliards de dollars justement pour financer des projets où il y a une rentabilité possible à la fin. Et d'accord. C'est pour ça qu'ils vont étudier notamment le REM à Montréal, la Caisse de dépôt. Ça se pourrait que ce soit cette banque-là qui le finance parce qu'on veut faire des revenus avec ça. Donc, on pourrait, avoir, du côté de la Banque d'infrastructure du Canada, investir dans un pipeline. Ce serait une possibilité. Ce serait donc pas le gouvernement directement, ce serait une de ces sociétés d'État qui le ferait. On n'en est pas là encore. On commence les discussions, mais c'est une possibilité qu'on m'a évoquée. Il n'est pas question de nationaliser le pipeline. On va pas avoir une participation majoritaire du gouvernement. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas contrôler le pipeline, mais peut-être une participation financière ferait en sorte que les actionnaires seraient plus patients. Donc, et on a confirmé en fin de semaine aussi, dernier point, qu'il n'y aura pas de sanctions contre la Colombie-Britannique, pas de réduction des paiements de transfert, entre autres. Certains l'avaient évoqué. On ne veut pas punir la Colombie-Britannique. Donc ça, Justin Trudeau l'a écarté dans sa conférence de presse. Donc, est-ce que tu veux qu'on entende un peu les réactions de chacun? Puisqu'il y avait de longs points de presse hier, j'ai isolé quelques extraits.
Tu peux-tu nous les résumer, Alex? Ça va nous laisser un petit peu plus de temps pour les autres.
Je peux te les résumer. Vas-y grosso modo, donc. Justin Trudeau a dit et a répété qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites dans ce dossier-là et que là, on était dû pour passer à l'action. Il a répété que le gouvernement de la Colombie-Britannique précédent, celui avant le gouvernement néo-démocrate actuel, avait approuvé le pipeline parce qu'ils avaient émis 5 conditions à l'époque. Un peu comme Énergie Est avec le gouvernement du Québec qui avait émis 7 conditions. La Colombie-Britannique avait fait la même chose avec 5 conditions. 5 conditions et tous avaient été remplis, d'après l'ancienne première ministre Christy Clark. Donc, Justin Trudeau dit « C'est pas vrai que le gouvernement de la Colombie-Britannique était contre. Il était pour à l'époque, avant le changement de gouvernement. » Et donc, il a rappelé ça. Il a rappelé 1,5 milliard d'investissements pour protéger les côtes. Il a dit qu'il y a eu de larges consultations, incluant avec les groupes autochtones. Il dit qu'on a 33 ententes de signer avec des communautés autochtones le long du trajet. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres à qui ça ne fait pas l'affaire. Et donc, il a rappelé tout ça. Et il était vraiment en mode vente hier, là, Justin Trudeau. Il a dit « Nous, on va aider les travailleurs de l'Alberta qui travaillent dans les ressources pétrolières. » Comme on a aidé les travailleurs de l'aérospatiale au Québec, comme on a aidé les travailleurs de l'auto en Ontario, de la forêt en Colombie-Britannique, des pêcheurs en Atlantique. Bref, il a ramené ça sur le plan national en essayant de vendre sa salade pour dire ben on a le pouvoir de le faire, mais c'est en plus dans les intérêts économiques du pays. Donc ça, c'est la réaction grosso modo de Justin Trudeau. Et Rachel Notley a dit « Écoutez, on perd 40 millions par jour parce que le prix du baril de pétrole est vendu à rabais aux Américains plutôt que de l'exporter vers l'Asie. Donc c'est normal qu'on soit rendu à des moyens un petit peu plus musclés. 40 millions par jour pour l'économie canadienne, c'est beaucoup. » Puis John Horgan, la Colombie-Britannique, a dit « Écoutez, moi, mon rôle là-dedans, là, c'est de défendre les intérêts de la Colombie-Britannique. Je vais aller devant les tribunaux pour voir si je peux, oui ou non, contrôler le flot de pétrole sur mon territoire. » Puis il dit « Quand les tribunaux se seront prononcés, bien, on suivra la directive que les tribunaux nous auront donnée. »
C'est intéressant de dire que M. Fournier, Jean-Marc Fournier, le ministre des Affaires intergouvernementales ou des Relations canadiennes, a réagi. Hein? Il a publié une lettre ouverte dans la presse. Il a donné une entrevue aussi. Il a dit que c'est la façon dont se comportait le fédéral dans ce dossier-là, c'était inquiétant pour l'avenir.
Oui.
Il a dit que ça illustrait la nécessité de pratiquer un fédéralisme coopératif. Donc, lui qui fait toujours attention pour ne rien condamner de ce que le fédéral fait, il marche sur des œufs à chaque fois.
Une autre manifestation de nationalisme à l'approche des élections, peut-être?
Je pense que oui. Mais ça va dans une stratégie, ça.
Ce qui est intéressant, c'est que John Horgan a dit hier en conférence de presse qu'il avait appelé donc Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, pour lui demander conseil.
Ouais, ouais, ouais.
Sous-entendant qu'on avait, nous, de l'expérience avec les querelles constitutionnelles. Alors, pas tant les pipelines comme les querelles avec Ottawa.
Mais avec NRJS,
entre autres, entre autres aussi. Puis sur la méthode, la marche à suivre. Il n'a pas voulu en dire plus, mais ils se sont parlé sur le sujet.
La ministre de l'Environnement, Isabelle Mélenchon, quand même a dit que le gouvernement du Québec souhaite qu'il soit explicitement établi que lorsque le gouvernement fédéral et celui du Québec établissent qu'ils sont tous deux responsabilités à l'égard d'un projet en particulier, ben c'est l'application de la procédure québécoise qui soit systématiquement favorisée.
Oui, dans le cas des évaluations environnementales. Il faut s'arrêter parce qu'il faut se garder du temps. Au retour de la pause, on va parler de ces deux économistes qui ont été investis en fin de semaine, qui vont être candidats, l'un pour le Parti québécois, Jean-Martin Hossan, l'autre pour la Coalition Avenir Québec, Youri Chassin, après la pause. De retour avec Alec et Antoine pour parler politique. Antoine, je retourne à toi donc pour parler de ces deux nouvelles candidatures qui sont considérées des candidatures vedettes par leurs partis respectifs. D'abord, Jean-Martin Hossan qui a remporté son pari dans Pointe-aux-Trembles pour le Parti québécois.
Oui, c'est vraiment une élection à ce moment-là, à l'investiture. Alors que dans l'autre cas, comme les libéraux et péquistes se plaisent à le rappeler, c'est le chef qui choisit. Dans le cas de Youri Chassin à la CAQ, oui. Donc dans Saint-Jérôme. Mm-hmm. Alors, pour revenir à Jean-Martin Hossan, il a gagné son premier pari, donc 64 % contre 36 % pour Maxime Laporte, qui est quand même président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui avait l'appui de Bernard Landry.
De Mario Beaulieu, aussi, député
Mario
fédéral.
Mario Beaulieu, effectivement. Ouais. Mm-hmm. Donc, au moment où un sondage dit que le Parti québécois est à 16 % dans les intentions de vote, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand déchirement dans la salle. Bon, ces choses-là sont peut-être cachées, puis je n'ai pas investigué davantage, mais Maxime Laporte, après l'annonce de sa défaite, semblait dire qu'il continuerait de militer au sein du parti, même si l'exécutif lui a fait une sorte de petit croque en jambe en limitant le temps là, pour vendre des cartes du parti.
Exact.
Il y a un travail de rassemblement quand même à faire de la part de M. Hossan, mais ça va peut-être être plus facile compte tenu des difficultés qu'a le Parti québécois actuellement. C'est ce que j'ai senti en tout cas. Quant à Youri Chassin, ben lui, donc, il a été choisi. On sait que Youri Chassin, il est dénoncé comme une sorte de Belzébuth de la droite sur les réseaux. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est incroyable. Oui. Il y a même, je lisais Paul Klisch tantôt, qui est un militant de la gauche depuis des lustres et fondateur de un des fondateurs de l'Union pour, de Québec solidaire, mais l'UFP, là, qui est
l'Union des forces progressistes.
Oui. Qui s'était présenté dans... C'était dans...
Mercier.
Oui, c'est ça. En 2002, puis il a fait un bon score. Donc, Youri Chassin écrit Paul Klisch est le politicien le plus à droite de l'histoire contemporaine du Québec. Et il sera candidat pour la CAQ dans Saint-Jérôme et pourrait bien devenir président du Conseil du Trésor. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est craint là, par les forces de gauche parce que évidemment il a travaillé, il est économiste. Bon, il a milité dans les mouvements étudiants, mais après ça, il a mal viré selon l'option de bien des gens de gauche. C'est-à-dire qu'il a eu des postes d'économiste et directeur de recherche, notamment à l'Institut économique de Montréal, qui est un institut qui est très, très à droite. On peut l'écouter d'ailleurs. Dans sa présentation hier, il a rappelé le manifeste des Lucides, souvenons-nous. Mmh. Ça avait été signé, présenté par Lucien Bouchard, André Pratt, Pierre Fortin.
Joseph Facal,
effectivement. Mmh. Et M. Chassin a utilisé une expression qui vient directement de ce manifeste déposé en 2005 et non en 2004, comme il le dit. On peut écouter donc Youri Chassin.
Ma réflexion des derniers mois m'a convaincu que c'est en politique active au sein de la CAQ que je peux le mieux contribuer à sortir le Québec de la République du statu quo. L'expression n'est pas de moi, elle est tirée du manifeste pour un Québec lucide, un manifeste paru en 2004. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis près de 15 ans? En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis que les libéraux sont au pouvoir? Essentiellement, la lourdeur de la dette pèse toujours sur les finances publiques.
Mm-hmm. Oui, en fait, j'ai retrouvé plusieurs textes hein, de Yuri Chassin. Doit-on privatiser la SAQ, une relique des années 2000? Mm-hmm. Ensuite de ça, il a écrit un papier sur la privatisation d'Hydro One, la société d'État ontarienne.
C'était intéressant. J'avais un autre extrait, on n'a pas le temps, là, mais François Legault disait « J'ai parlé à Yuri, on a fait l'éventail des positions qu'il avait, puis il s'est rallié à moi sur plusieurs positions avec lesquelles j'étais pas d'accord. »
Oh! Mais oh, ben là, oui. On a hâte de savoir lesquels.
Ben, veux-tu qu'on l'écoute?
Ah, ben, ouais, donc.
Je veux dire aux gens de Saint-Jérôme que Yuri va jouer un rôle important dans un éventuel gouvernement de la CAQ. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui a tout mon respect, qui s'est penché sur plusieurs sujets. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. On s'en est beaucoup parlé dans les dernières semaines, et Yuri s'est rallié, on s'entend, sur les priorités, puis les positions, et puis les changements qu'il y a à faire au Québec.
Oui, OK. Fait que là, veut pas, Legault va devoir répondre à la question sur la privatisation de la SAQ. Chassin a déjà dit qu'il était pour. Vous, c'est quoi votre position? Privatisation d'Hydro-Québec? Hein,
oui, écoute, le Parti québécois a déjà fait une liste de comparatifs entre les positions d'Yuri Chassin et de la CAQ.
C'est ça.
Pour bien faire ressortir le contraste.
Les garderies, le privé en santé et tout le reste.
Oui, je pense que tu as cette liste-là. On va poser la question, évidemment.
Oui, je disais ce matin... au micro de Paul, qu'on aura une semaine Chassin, je pense, à l'Assemblée nationale du Québec.
Oui, t'as dit ça, c'est
vrai. Je pense qu'on aura une semaine Chassin. Il n'y a pas juste les péquistes qui sont sur la trace de Yuri Chassin. Un contact libéral me disait « J'ai lu beaucoup, beaucoup de Chassin en fin de semaine. » Je pense les libéraux, et sans parler de Québec solidaire, s'ils faisaient référence avec Paul Klich, qui vont attaquer Chassin également, et donc par le fait même la CAQ et Legault. Allons vite à Paris. Rejoindre Justin Trudeau, qui a été reçu en grande pompe par le président de la France éternelle, hein, Emmanuel Macron.
Oui, parce que demain, il s'adresse à l'Assemblée nationale française, Justin Trudeau, une première pour un premier ministre canadien. Mmh, mais avant, ce matin, c'était la rencontre entre les deux hommes. Donc, on avait une rencontre de travail, on discutait, on a signé des ententes sur l'environnement, un nouveau partenariat franco-canadien pour le climat et les changements climatiques, entre autres. On a parlé, de toutes sortes d'autres sujets, évidemment, économie, mais donc, je t'ai fait entendre rapidement, donc, lors de leur point de presse ce matin, où on était visiblement les deux très heureux de se rencontrer et d'être ensemble.
Oui.
On s'aime bien, Macron-Trudeau.
Ils s'aiment beaucoup.
Alors, voici les deux hommes sur l'environnement.
Intensifier notre collaboration dans la lutte contre les changements climatiques. Depuis la COP21, notre gouvernement est fier d'avoir adopté plusieurs mesures visant à réduire l'empreinte carbone du Canada et à atteindre les cibles ambitieuses fixées par l'accord de Paris.
Nous sommes extrêmement attachés l'un et l'autre à la lutte contre le réchauffement climatique. Et votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, a mis en place des mesures très ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et s'est fortement impliqué, je vous en remercie, lors du One Planet Summit que nous avions organisé le 12 décembre dernier.
Oui, ces mesures n'incluent visiblement pas le pipeline de Trans Mountain.
Non, mais je pense que Justin Trudeau était content qu'on lui parle de changement climatique et d'environnement et de se sortir un peu peut-être de ces questions pétrolières.
Oui, en effet.
Alors voilà, les deux hommes qui s'entendaient bien, qui ont fait un long point de presse. C'était pour te donner un petit peu
Monsieur
le ton.
Monsieur Macron, il a donné toute une entrevue hier.
Oui, mais Antoine, on ne parlera pas de cela.
Ah, c'est vrai.
Parce que là, il faut laisser mon ami Loïc s'en venir pour parler des questions internationales, peut-être.
Vous allez en parler, peut-être?
Je pense que oui.
Avec 2h30. OK, je m'attends.
C'était toute une entrevue, effectivement. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec, et Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Merci à vous deux.
À demain.
Au revoir.
À demain. Au revoir. Et Loïc Tassé qui s'en vient dans un instant.